town, all up in the suburb. While niggas making faces like the rock on the curb. Nigga, people's elbow for loudmouth hoes. And groupie niggas begging for passes to the show. Big ass checks.
On est ensemble pour une heure sur les ondes des radios Fer Rock pour une émission spéciale avec Eddy, programmateur du Festival Rock dans tous ses états, dont la 29e édition va se dérouler à Évreux les 29 et 30 juin 2012. Alors salut Eddy, comment ça va ?
Salut. Et ça va très bien.
Alors, avant de parler de l'édition à venir, on peut causer vite fait de l'édition de l'année dernière. Comment ça s'est passé, cette 28e édition ? Est-ce qu'il y a eu des grosses surprises, des grosses claques, des grosses déceptions ?
D'un point de vue général, ça s'est plutôt bien passé. D'après le retour des gens, il y a eu pas mal de bonnes petites découvertes qui ont été faites sur scène, sur les petits paris qu'on avait pris. On n'a pas eu de déception parce qu'il y a des groupes qu'on va chercher et qu'on a jamais vus. Mais oui, il y a eu quelques gros moments. Je dirais No Surrender, c'était vraiment très très bien. Ça a bien scotché les gens. The Experimental Tropic Blues Band aussi, c'était chouette. Groupe belge de rock'n'roll qui a fini à moitié à poil. Donc ça, les gens sont contents en général. Joe Biafra, c'était vraiment chouette. Il y a plein de gens qui sont venus de toute la France pour le voir, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dates. C'était une bonne surprise.
Il me semble que toi-même, c'était un artiste
que t'attendais. Oui, c'était un truc que j'attendais et que j'avais jamais vu. Et j'ai pas été déçu parce qu'il a vraiment toujours la pêche. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien encore ? Atarétine et Jariot, hein, ça a fait quelques dégâts quand même sur l'audition des gens qui étaient au premier rang. C'est un peu les trucs qui sont ressortis de cette année, quoi.
Globalement, donc, une plutôt bonne édition, la 28e.
Ouais, on était plutôt content de l'édition. Après, il y a eu une petite baisse de fréquentation l'an dernier. Donc là-dessus, on était un petit peu déçus. Donc on a décidé cette année de remettre un coup sur la prog, notamment sur l'enveloppe artistique, et revoir un petit peu les ambitions à la hausse, quoi.
On va parler des groupes sur cette 29e édition. Le vendredi 29 juin, véritablement une grosse surprise qui est sortie de nulle part, The Boats.
Ouais, écoute, c'est un de mes petits chouchous de cette année. Effectivement, sorti un peu de nulle part. Moi, j'ai juste vu une vidéo ou deux sur le net. Deux frères qui sont vraiment très très jeunes, parce qu'ils doivent avoir 35 ans à eux deux. Je crois qu'il y en a un qui vient d'avoir 18 ans et l'autre doit avoir 15 ans. Et c'est assez rigolo d'avoir un duo comme ça, aussi jeune, sur ce style-là, parce qu'ils sont vraiment sur du punk hardcore à l'ancienne, quoi. Un truc très old school, un petit côté Black Flag ou les premiers Beastie Boys, quoi. Donc c'est marrant de voir des gamins faire ça. En plus, c'est deux petits blacks avec des coupes afro, donc c'est vraiment rigolo. Coupes afro et costard. Donc ça risque d'être une des révélations du festival, je pense. En tout cas, moi, je suis vachement en attente de voir ça.
Et c'est marrant, ça donne l'impression d'être le genre de groupe qui peuvent commencer à marcher aux États-Unis et puis qui vont mettre un petit peu de temps avant de venir exploser en Europe.
Ouais, ouais, carrément, à l'image des Black Keys ou des White Stripes.
Tout de suite, on va écouter un extrait de The Boats.
I got my apparatus, I got my microphone, I got my guitar on, we're gonna hustle for now.
Get your own, we're gonna hustle for now. My apparatus, we got it on.
juste à l'instant The Boats, un des groupes découvertes qu'on va retrouver sur cette 29e édition du Festival Rock dans tous ses états. On enregistre cette émission avec Eddie du festival à un mois du festival à peu près.
23 jours très précisément.
23 jours, il n'y aura plus aucun mystère pour les auditeurs. Comment ça se présente pour l'instant ?
Jusqu'ici tout va bien, on est plutôt content. On a une belle édition qui se prépare, on est très content de l'affiche et... Vu les retours des gens et la billetterie, je pense que c'est un petit peu général comme avis, donc on est plutôt content.
Quand tu es programmateur d'un festival comme le Rock, est-ce que tu peux, à un mois du festival, déjà te dire si ça va être une plus ou moins bonne édition ?
On connaît les grandes tendances. Après, précisément, non, on ne sait pas. Même le jour même, en fait, on ne sait pas. Il faut quelques semaines pour un petit peu débriefer tout ça et avoir le retour de tout le monde.
Ça t'est arrivé quand même quelquefois d'avoir suffisamment de pré-vente pour pouvoir y aller les mains dans les poches le jour J ?
Alors, avoir suffisamment de pré-vente, oui, mais ça permet jamais d'y aller les mains dans les poches. Non. Ça reste quand même toujours un petit exploit de boucler le festival.
On va parler du groupe de cette 29e édition.
Ouais.
Alors, Crystal Castle, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, de programmer ce groupe ?
Bah moi c'est un duo que j'ai vu il y a des années, juste quand ils ont commencé en fait, à Montréal, pendant un festival qui s'appelle le Meg. Ils jouaient dans le Festival Off, dans une boîte, enfin un club, à une heure indue. Et ça nous avait bien mis une claque, et c'était enfin c'est il y a longtemps, c'était bien il y a 7-8 ans. Et c'est surprenant de voir à quel niveau c'est arrivé maintenant de... C'est un truc qui est devenu vachement populaire, quoi. Je pensais pas que ça allait aller jusque là parce que le concert était super, mais c'est quand même assez destroy. Et du coup, oui, c'était une bonne occasion de les faire parce qu'on les a jamais fait sur toutes les dernières éditions. Et moi j'aime bien ces sonorités, un peu 8 bits, un peu cheap. Je trouve aussi que ce qui développe, l'imagerie qui développe. C'est assez rigolote, assez poseur, quoi. Moi, j'aime bien les groupes qui posent.
Crystal Castle, tu disais donc que c'était un groupe que tu avais vu sur ce festival au Canada. Ça fait partie aussi de ton travail de programmateur d'aller te balader dans les festivals un peu partout dans le monde pour dénicher.
Et oui, tout à fait. Ouais, j'essaie vraiment d'en faire pas mal. Après, c'est pas toujours évident, parce que je suis pas que programmateur, je suis co-directeur du festival aussi, donc c'est dur d'être absent un peu trop souvent. Mais oui, ça fait partie des petits plaisirs quand même, de pouvoir voir plein de choses un peu partout. Ça, c'est super.
Et il y a des festivals en particulier, justement, où tu vas faire tes courses, qui sont vraiment des bonnes adresses ?
Ouais, le South by Southwest à Austin.
Le classique.
Après Montréal, il y a pas mal de choses. Il y a tellement de groupes, hein, c'est tellement vivant qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, j'essaie d'aller au moins une fois, voire deux par an, à différents événements, que ce soit le Meg, M pour Montréal ou ce genre de choses. Les festivals d'été, c'est un peu plus compliqué parce que quand le nôtre est fini, on a envie que ça s'arrête. Mais Dour, c'est vachement bien. C'est un des meilleurs festivals en Europe.
Tout de suite, on écoute un morceau de Crystal Castle. juste à l'instant Crystal Castle, un groupe qu'on va retrouver cette année au Rock dans tous ses états. Cette année, comment s'est passée la confection de cette prog? Est-ce que tout s'est goupillé plutôt facilement ou t'as été obligé de changer plusieurs fois de plan, de direction?
Un petit peu comme d'habitude, il y a des choses qui ont été très simples à caler, comme Manu Chao, bizarrement, puisque c'est un peu c'est une des têtes d'affiche, c'est le truc le plus populaire, donc a priori on pourrait penser que c'était un gros dossier, mais ça a été fait en quelques jours. Après, avec les étrangers, notamment les Américains, c'est toujours très compliqué, comme Cypress Hill ou Brian Johnston Massacre. Ça met très très longtemps à dire oui, non, oui, mais oui peut-être, oui mais non, mais si en fait, mais en fait non mais si.
Et il y a quelques groupes sur lesquels tu étais quasiment à 90% sûr et qui finalement se sont pas
fait. Ah oui, il y a plein de groupes qui confirment, hein. Mais en fait non. Oui, la prog telle qu'elle l'était en septembre, puis en janvier, puis en juin, c'est trois progs quasiment différents, quoi. Il n'y a plus grand chose en commun, quoi. Mais ça fait partie du boulot, enfin c'est vraiment très très habituel, quoi. C'est rare les progs qui sont calés tôt et qui restent figés.
On continue de parler de la prog le samedi 30. Square Pusher, c'est pour continuer de détruire les oreilles avec du gros son.
Oui, c'est ça, exactement. En plus, c'est la clôture du festival, enfin c'est quasiment la clôture du festival, c'est dans la clôture électro de la scène B. Ouais, c'est un live qui va être vraiment événementiel parce que c'est son nouveau projet et son nouveau show Lumière qui est vraiment très impressionnant. Ça n'a pas été beaucoup joué, il y a quelques vidéos qui tournent sur le net, mais il n'y a pas grand chose, c'est pas en super qualité. Mais c'est un peu un retour de Square Pusher à l'électro. Électro violente et abrasive qu'on connaissait, quoi. Un peu moins dans le trip free jazz qu'il a eu sur les albums un peu avant là, c'est retour au basique. Et donc il y a un dispositif scénique assez impressionnant avec un énorme mur de LED qui fait 20, 25, 30 mètres carrés, avec lui il porte un casque avec des dispositifs lumineux aussi, donc ça va être un truc, une vraie expérience visuelle et sonore. Je pense que les gens qui connaissent pas vont un peu être soufflés.
C'est dur à mettre en place un concert qui a un show vraiment particulier comme ça?
Ouais, c'est très compliqué. C'est le truc le plus compliqué qu'on a cette année. Parce que c'est du matériel qui est vraiment très spécifique. C'est compliqué pour lui de venir avec depuis Londres dans son camion. Il faut le trouver sur place, il faut trouver le temps de le monter, de le tester, que ça lui convienne. Tout ça dans des budgets qui sont très serrés. Donc ouais, ça c'est le vrai tour de force de cette édition. Je pense qu'une fois que ce sera passé, j'irai faire une petite bise à notre régisseur de la CNB pour toute la peine qu'il a dû endurer.
On écoute tout de suite un morceau de Square Pusher. We'll be right back. Juste à l'instant, on a écouté un extrait de Square Pusher, un des groupes présents sur cette nouvelle édition du Rock dans tous ses états. Tu parlais de Manu Chao, qui est l'artiste qui a sûrement le plus de notoriété sur cette édition. Est-ce que c'est le genre de groupe que tu as programmé en réponse à la baisse de fréquentation de l'année dernière dont tu parlais tout à l'heure ?
La réponse, c'est pas vraiment un groupe en particulier, où on n'avait pas de groupe en tête, c'est juste que... Il y a un truc mécanique qui fait que voilà, ce qui intéresse les gens en premier, forcément, c'est la programmation. Donc on savait que l'effort, on devait le faire sur la programmation, le reste étant déjà assez élevé. Nous, l'accueil du public, tout ça, on est sur des standards assez élevés. Donc le choix était d'augmenter notre offre artistique et après de faire avec ce qui était disponible et les choses dont on avait envie et ce que étaient un peu les attentes du public. Et il se trouve que Manu Chao, c'est un truc qui est arrivé plutôt tard dans le processus de programmation, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, qui s'est bouclé en 2-3 jours. Parce que il avait envie de venir, en fait, quoi. Qu'il connaissait déjà le festival, il était déjà venu il y a très longtemps, il connaissait la salle aussi. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. C'est un des rares qui pose des questions, en fait, sur avec qui il joue, qui est très attentif au prix de billets qu'on pratique et avec quel type de partenaires on travaille sur le festival, les partenaires privés notamment, les sponsors, tout ça. Donc voilà, c'était assez marrant quoi de pouvoir échanger avec lui et sa prod à ce sujet.
Finalement, au niveau éthique, ce serait le genre de groupe qui se rapproche un peu de l'idée du rock dans tous ses états.
Ouais, ça colle carrément un petit peu à ce que nous on a envie de défendre et de ce qu'on propose aux gens depuis quelques années maintenant, quoi.
Un autre groupe, le samedi 30 juin, un autre groupe à l'identité vraiment forte, c'est Brian Johnston Massacre.
Une identité très forte, oui, c'est sûr.
Comment ça s'est passé, le choix de ce groupe hein ?
C'est un truc qu'on essaie de faire depuis 2-3 ans déjà, et ça, jusqu'à maintenant, pas réussi à se concrétiser. Donc on a retenté le coup cette année et comme il y avait de l'actualité, qu'il y a l'album qui sort là, qui est sorti il y a quelques semaines, et là ça s'est fait bizarrement, sans grand souci. Je sais pas s'ils se sont un peu assagis, j'espère qu'ils vont quand même se battre sur scène. C'est un groupe que j'aime beaucoup depuis ce film documentaire qui s'appelle Dig, un petit peu les coulisses de leur vie de groupe. J'espère qu'ils sont tous là, même leurs potes là qui jouent, dont on ne sait pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'ils ont l'impression qu'ils jouent du tambourin, mais j'espère qu'il est encore là, qu'ils ne sont pas séparés de lui. À part des sacrés trublions et des petits rigolos, ils écrivent quand même des super chansons, c'est surtout pour ça. Après, le folklore est marrant, quoi. Ils sont assez destroyés.
C'est la petite étincelle en plus qui fait la différence d'avoir
c'est
un groupe comme ça.
Côté rock, pour justifier un peu le nom du festival, quoi. Le rock dans tous ses états, on pourrait leur tatouer sur le bras.
Ok, on s'écoute tout de suite un morceau de Brian Johnston Massacre.
What you grab, what you can. juste à l'instant, les sulfureux Brian Johnston Massacre, toujours avec Eddie, programmateur du festival Rock dans tous ses états. Quand tu bosses sur la prog du festival, est-ce que tu as une sorte de recette secrète, un cadre strict que tu essayes de respecter avec tant de groupes de tel style ou tel style, tant de têtes d'affiche, tant de groupes découvertes?
Non, pas vraiment. Il n'y a pas de grille avec des cases, des pourcentages à remplir. Après, c'est sûr qu'on fait quand même attention à rester un festival éclectique, donc à proposer des choses un peu différente, en tout cas dans ce qui est annoncé, quoi, parce que je pense qu'il y a quand même une cohérence un peu générale dans les groupes qui peuvent jouer. Mais non, on s'impose pas vraiment de faire un groupe de reggae, un groupe de rap, un groupe de rock. C'est un peu au feeling, selon aussi ce qui tourne sur l'été, hein, parce qu'il y a beaucoup de groupes, mais finalement on n'a pas tant de propositions, enfin sur les têtes d'affiche en tout cas, il n'y a pas tant de propositions que ça. Il suffit de regarder les programmations de cet été sur tous les festivals. Il y a beaucoup de groupes qu'on trouve un peu partout, quoi. Il y en a certains qui sont chez nous, pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai vu sur quelques sites des palmarès de nombre de groupes qui jouaient dans un nombre déterminé de festivals. C'est assez impressionnant.
Ton envie, c'est de te démarquer de ça et de proposer une tête d'affiche différente de tous les autres?
Ouais, c'est l'intention en tout cas. Mais il y a des trucs qui sont un peu inratables, quoi. Quand on fait un 995 sur le festival, c'est un groupe qu'on va retrouver sur beaucoup d'autres festivals, mais c'est un vrai succès de cette année, donc c'est quelque chose qu'il faut présenter aux gens, parce qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus.
Et quand c'est des groupes comme ça, qui sont des gros succès, qu'il faut présenter, pour toi c'est... Tu les présentes à regret ou...
Ah non, jamais, parce que non, s'il y a des trucs qui nous plaisent pas, on les fait pas du tout, quoi. Il faut quand même, à la base, que ça nous plaise, quoi. Ouais. Ça ne nous fout pas la honte.
On continue de parler de la prog, le Factory Floor, c'est un groupe qu'on va pouvoir découvrir le samedi sur cette 29e édition du Rock dans tous ses états. Comment t'as découvert ce groupe?
C'est sur les conseils d'un ami programmateur qui les a vus sur le Great Escape, pas cette année, mais l'année dernière. Donc ça met un peu de temps, quelquefois, entre un groupe qu'on repère et un groupe qu'on fait jouer. Ils ont fait les transmusicales entre-temps, cet hiver. Et voilà, une vraie petite découverte. Alors assez abrasive aussi, hein, c'est assez entêtant, quoi. C'est l'électro, mais version post-punk, voire un peu crotrock, quoi, avec des gimmicks et des rythmes qui tournent, et des chansons qui durent 10 minutes. Donc voilà, ça va rendre un peu fou les gens, c'est le but, c'est faire rentrer en transe.
On s'écoute tout de suite un morceau de Factory Floor.
Just
Factory Floor juste à l'instant, un des groupes qui sera présent sur cette 29e édition du Festival Rock dans tous ses états. On est toujours avec Eddie, programmateur du festival, on est toujours sur 666 et toutes les radios Ferrarock. En tant que programmateur, qu'est-ce qui te passionne le plus ? Signer les grosses pointures ou plutôt aller dénicher les petites pépites, les groupes un peu plus obscurs ?
C'est pas vraiment une question.
J'ai répondu dans la question.
Oui, c'est évident. Après, d'un point de vue professionnel, c'est vachement plus le cœur du métier que de boucler les dossiers les plus compliqués, quoi. Parce que aller chercher les découvertes, c'est plutôt marrant, ça se fait vraiment avec plaisir. Et les groupes sont motivés, nous on est motivés, donc tout marche, ça marche bien, quoi.
J'ai l'impression que les groupes, justement les groupes découvertes comme ça, c'est, ils prennent un peu petit à petit le dessus sur les têtes d'affiche. Enfin, c'est peut-être aussi parce que tu prends plus de plaisir à les programmer, donc tu les mets peut-être un peu plus en avant quand tu en parles.
Ouais, on essaye, c'est vrai qu'on essaye de les mettre à des bons spots, sur la bonne scène. On les travaille plus sur les médias aussi, on essaie de les mettre en avant. Parce que c'est aussi une des particularités du festival, en tout cas une de celles que nous on met aussi en première ligne, c'est qu'on est aussi un festival de découverte. Et voilà, c'est des paris, c'est des groupes qui méritent toute notre attention. Donc on les traite avec soin, c'est vrai, peut-être un peu plus de soin que les autres.
Et est-ce que finalement ça te plairait d'avoir la possibilité de faire un festival constitué uniquement de découvertes ?
Je ne sais pas. Je pense pas que ça se présente, mais on fait pas vraiment le festival pour soi perso, quoi. Je ne voudrais pas non plus faire un festival juste pour moi, quoi.
On va continuer de parler de rock un peu dur. Avec le vendredi, on va pouvoir retrouver, voir The Bronx, qui sont assez rares finalement.
Ouais, qui sont assez rares, qu'on fait aussi pas mal de choses différentes sur les dernières tournées, notamment la version mariachi, voilà, qui était un peu inspirée des musiques d'Amérique du Sud ou du Sud de l'Amérique, on ne sait plus. Et c'est un groupe que moi j'ai découvert à l'abordage, en tant que public, il y a des années et des années. Et ça m'avait remis une sacrée claque. Et on n'a pas eu l'occasion de les faire revenir sur scène depuis. Et moi c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est assez furieux, quoi. Ils sont pas là pour déconner, les gars.
Ouais, et c'est un groupe qui va bientôt fêter ses 10 ans, ou qui les a peut-être fêtés, et que finalement on n'a pas vu tant que ça, quoi.
Non, c'est resté je pense dans un cercle d'érudits, et je crois que ça marche quand même un peu mieux pour eux aux États-Unis, quoi. Ils sont vraiment très très implantés. Mais en France, il y a une base de fans qui est assez assez costaud et qui les suit tout le temps un petit peu partout. C'est un groupe qui a beaucoup de crédit, en fait.
Ok, on écoute tout de suite The Bronx. We'll be right back. juste à l'instant, c'était les Américains de The Bronx, un autre groupe présent sur le rock dans tous ses états.
Chaque année, lors du festival, ton boulot fait que tu peux pas vraiment profiter des groupes, des concerts. Mais est-ce que tu essaies quand même d'aller causer rien que deux secondes un peu avec les groupes, essayer de rencontrer un peu plus les groupes, justement, notamment les découvertes que tu es allé fouiner sur l'internet. Est-ce que tu essaies de prendre le temps? Est-ce que tu arrives à prendre le temps d'échanger un peu?
Ça se fait, quand ça se fait, c'est vraiment par hasard. C'est que je les croise ou que... Il y a aussi pas mal de groupes qui demandent à voir les programmateurs parce qu'ils sont contents de venir jouer. On se dit bonjour, on se serre la main, on se dit que c'est super. Mais non, je cherche pas, il y a personne. Le seul que je suis allé voir, c'est Dello Biafra. C'est le premier, depuis que je fais ce job, c'est le premier que je suis allé voir depuis les backstage. J'ai maté le concert des backstage et voilà, petite tape dans le dos. Dello, c'est toi le boss. C'est tout. Après oui, moi j'ai croisé quelques gars qui étaient contents. Les No Surrender par exemple étaient super contents. On les a croisés, on a fait quelques photos. Ça fait toujours plaisir.
Il me semble me rappeler déjà que l'année dernière, avant le festival, tu prévoyais d'aller voir Dello Biafra.
Ouais. C'est le seul truc que j'avais dans mon agenda de la soirée.
C'est pas trop frustrant de bosser tant en amont sur cette prog et puis finalement de voir si peu de groupes. T'arrives à t'en remettre?
C'est un oui, c'est un mélange entre un peu de frustration parce que ça passe très très vite. Deux soirées, ça rentre vraiment très très vite. Mais aussi pas mal de satisfaction. Voilà, nous on le vit plutôt à travers les gens, quoi, les gens qui sont autour de nous, qui eux, on sent qu'ils sont vraiment éclatés, que ce soit les équipes, les groupes ou dans le public. C'est là-dedans qu'on retire un petit peu notre satisfaction. Et après on réussit, enfin moi je vois quand même toujours un ou deux concerts. Pendant les deux jours, hein. Donc ouais, moi ça me va.
Un autre groupe, alors Matt Ward, plutôt dans une veine indie folk, lo-fi, qui va se produire le vendredi. Ça doit pas être très facile à programmer ce genre de projet sur un festival en plein air.
Non, surtout qu'on sait même pas vraiment à quoi va ressembler le live. Parce que voilà, c'est un de mes musiciens américains préférés et c'est vrai qu'il a tellement de projets, tellement de trucs dans la tête, il a participé à tellement de disques que je sais même pas pour l'instant, on sait pas encore si ça va être en solo ou en groupe. Ce sera une découverte, quoi. Après c'est un super super songwriter, donc il n'y aura aucun doute sur ce qu'il va pouvoir nous jouer, quoi, mais je sais pas s'il sera seul ou avec ses petits copains.
Et c'est un groupe que tu aimes particulièrement et sur lequel tu t'es placé en amont pour l'avoir?
Comme pour les Brian Johnston, c'est un groupe qu'on a essayé de faire depuis quelques années sans réussir et là c'est ressorti un petit peu de nulle part. Il s'est trouvé disponible et il se trouvait qu'on avait une place pour lui. Et ça s'est fait assez vite aussi, quoi, finalement.
On s'écoute tout de suite un morceau de Matt Ward.
Gotta see what it all is for.
juste à l'instant, Matt Ward, un autre groupe découverte sur le rock dans tous ses états.
Et sur les têtes d'affiche, tu parlais enfin, on disait que Manu Chao correspondait plutôt bien finalement en termes d'éthique au rock dans tous ses états. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de finalement reculer d'être sur une option de tête d'affiche parce que finalement trop chiant de négocier avec eux, finalement se rendre compte que ça pouvait pas le faire en termes d'éthique?
Non, ça s'est pas vraiment présenté encore. Il y a peut-être quelques trucs reggae qui sont un peu borderline quelquefois. Il y a quelques Jamaïcains, voilà, où faut pas trop mettre le nez dans les textes, sinon ça fait un peu peur. Mais sur les têtes d'affiche, non, pas réellement. On avait fait Orelsan l'année, c'est très bien passé, enfin, nous on soutenait à 100%. Après, sur les têtes d'affiche, en fait, si on entame une discussion avec un groupe, c'est que déjà on s'est renseigné et qu'on sait que ça peut rentrer dans ce que nous on a envie de proposer. Et puis, quand on entame en fait des discussions avec une tête d'affiche, notamment de l'international, on peut pas vraiment, une fois qu'on est engagé dans le processus, reculer et se désengager, quoi. Parce qu'il y a un peu peut-être trop d'enjeux sur les tournées internationales.
On revient sur un groupe français qui fonctionne plutôt bien, qui a Stuck in the Sound, un groupe qui était un peu attendu, avec un troisième album qui vient de sortir. Stuck in the Sound, ce genre de groupe français, c'est le genre de groupe que tu aimes aussi mettre en avant au milieu de pas mal de groupes anglo-saxons ou américains?
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ils ont un peu ce profil. Ça pourrait être très bien être un groupe anglo-saxon. D'ailleurs, je pense que s'ils avaient été anglo-saxons, ils auraient une carrière qui serait allée beaucoup plus vite, en fait. Parce que c'est vrai que nous, on les suit depuis longtemps, depuis le premier, même la première chanson qu'on avait découverte dans le CQFD des Inrock. Et depuis, cette année, on les avait fait sur le Festival Off. Et on les a refait ensuite dans notre salle, sur les différents albums. Mais c'est vrai que s'ils avaient été anglo-saxons, je pense qu'en 2-3 ans, ils auraient déjà atteint le niveau auquel ils sont aujourd'hui.
Bon, c'est pas un peu frustrant de ne pas pouvoir faire plus pour aider ces groupes
Ben nous, on fait vraiment le maximum. Hein. Ouais. On crie aux gens, on leur crie « c'est super ce groupe !» Mais après, on n'a pas tout le temps à écouter. Hein. Mais voilà, quand un groupe est bon et que il gère bien sa carrière comme ils ont pu le faire et qu'il travaille chaque disque vraiment c'est assez ciselé, voilà, ça finit toujours par payer sur la longueur, quoi.
En groupe français, je voulais juste signaler que c'était pas les seuls groupes français qui sont présents, il y a quand même quelques autres groupes, hein.
Ouais.
Tu peux nous lister de tête un peu ce qu'il y a
En gros, on a une petite sélection de groupes régionaux qu'on va considérer comme français, hein, même si nous sommes des indépendantistes normands, au normand même. Et oui, il y a d'autres choses. Il y a Manu Chao, on peut dire qu'il est français, mais s'il parle espagnol. Il y a Chinese Man, il y a des petits Rocky aussi, un groupe lillois qui sont les anciens TV Glory, qu'on avait déjà fait sur le festival il y a quelques années. Belle petite découverte, ça va être chouette. Il y a des Belges aussi, c'est quasiment des Français. Il y a Alan Corbel sur un style un peu plus chanson, qui est breton, comme quoi on n'est pas sectaire.
On s'écoute donc tout de suite un morceau de Stuck in the Sound. Voilà, juste à l'instant, c'était Stuck in the Sand. On est toujours avec Eddie, le programmateur du rock dans tous ses états.
Un petit rappel aussi que tu es également programmateur de l'abordage, la salle d'Evreux.
Ouais, tout à fait.
Il me semblait qu'il y avait un projet de construction de nouvelles salles et je me demandais où ça en était.
Eh bien, c'est en cours. Permis de construire a été affiché il y a quelques mois sur le site de construction, donc ça ne devrait pas tarder. Là, on est en phase de candidature pour la délégation de services publics, c'est-à-dire que la mairie a décidé de confier la gestion de l'équipement à un privé, donc une asso par exemple, et nous on va y répondre, parce qu'on n'est pas du tout mieux placé que les autres pour gérer le lieu, mais en tout cas on va candidater. Donc voilà, c'est un peu la phase de préfiguration en ce moment avant ouverture. Il y aura quasiment 18 mois de travaux et puis pas mal d'allers-retours entre le délégant, la mairie et le futur délégataire. On espère que ce sera nous.
Et j'imagine que ce type de projet, c'est aussi une motivation pour la salle et puis pour le festival, non?
Oui, complètement. Ouais, pour nous, c'est très très important d'avoir un festival qui soit adossé à une salle et à un projet qui est plus quotidien qu'un festival qui se passe sur deux jours. Nous ici on a des concerts toutes les semaines et c'est ça notre pain quotidien, disons. Et le festival, pour rester dans le culinaire, c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
on va changer un peu de style, on va passer sur un truc un peu plus tranquille. Gold Panda.
Ouais.
Je sais qu'il y a une mode des pandas depuis qu'ils reviennent en France, mais d'où est-ce que tu nous as trouvé, où est-ce que tu as trouvé ce groupe?
Oui, et bien découvert en fouillant un petit peu différents labels, voilà, pas mal de labels qui m'intéressent particulièrement, et là c'est sur Ghostly International. Moi je le connaissais pour des sons un peu trip-hop, teintés d'électronique. Et là, il y a un petit virage folk pop, et c'est vraiment pas mal, quoi. Ça dépasse le concert ou cet électro, quoi. Ça va être en live avec un musicien. C'est une musique qui reste quand même assez minimaliste et contemplative, mais sur scène, il y aura moyen de bouger son boutique un petit peu.
On s'écoute tout de suite un morceau de Gold Panda. Un extrait d'un morceau de Gold Panda, un des groupes découvertes sur cette 29e édition du festival rock dans tous ses états, toujours sur les radios Ferrarock, pour détailler cette 29e édition avec Eddie, programmateur du rock.
On reste en avec un autre groupe anglais, hein. Donc Murkage, un autre groupe anglais, et qui va se produire sur cette troisième scène qu'on appelle la Gonzo Mobile, troisième scène sur le rock dans tous ses états. Tu peux nous parler un peu de l'idée de cette troisième scène, l'ambiance que vous voulez faire régner sur cette troisième scène?
Alors, on essaie d'en faire un lieu un peu unique dans le festival, un lieu qui permette de sortir des deux scènes principales qui jouent en alternance, Et voilà, de créer un petit îlot comme ça, indépendant, avec de la programmation qui ne s'arrête jamais, et avec plusieurs phases dans chaque journée. Une partie de la journée est dédiée à une sélection de groupes régionaux. Ensuite, on y met des petites découvertes internationales qu'on a bien aimées dans l'année, des trucs un peu plus durs que le reste. Et cette année, on finit en accueillant le Cabaret Frix, qui est un collectif d'artistes, de performeurs, de musiciens et de stripteaseuses en tout genre, qui vont finir et clôturer la Gonzo Mobile les deux jours.
Et donc là, sur la Gonzo Mobile cette année, ça va être quand même une tendance un peu plus électro.
Ouais, tout à fait. Du coup, cette année. Mais ouais, c'est vraiment pas calculé, quoi. Ça se fait un petit peu comme ça, au feeling. Puis souvent... Souvent, la programmation, elle prend de la cohérence à posteriori, quoi, avec un petit peu de recul. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait exprès. Hein.
C'est pas rassurant, vous faites un peu n'importe quoi, c'est ça que tu veux me dire?
Ouais, c'est ça, c'est un peu l'esprit.
Alors, on va parler d'un dernier groupe qui est aussi sur le vendredi, une sorte de sous-tête d'affiche peut-être, les Raptures, qui sont de retour depuis l'année dernière avec un nouvel album. Ils se sont fait un peu attendre pour ce nouvel album. Hein.
Ouais, celui d'avant n'était pas super, quoi. On avait un petit peu déçu. Le premier était vraiment très très bien. Et on les avait fait d'ailleurs à l'époque sur le festival. Moi, je devais être dans le public en 2004 et je les avais découvert sur scène et j'ai pris une bonne vieille claque. C'était un petit peu l'explosion de cette vague new-yorkaise à hausse disco-punk. Donc ça fait plaisir de les retrouver, en plus avec un très bon album et chez DFA. Donc ça, ils ont pas perdu ses sonorités.
Pour terminer, on va se projeter un tout petit peu sur l'avenir. L'année prochaine, c'est la 30e du rock dans tous ses états. J'imagine que vous avez commencé à y réfléchir un peu. Est-ce qu'il faut s'attendre à des particularités sur cette édition anniversaire?
Oui, certainement. Alors, on est vraiment en train d'y réfléchir. On teste déjà quelques petits trucs cette année sur le festival, mais c'est plus de l'ordre de la logistique et de la technique, avec un changement des scènes notamment, qui sont vachement plus grandes, et puis l'accueil du Cabaret Frix sur la Gonzo. Donc oui, il y aura plein de choses, il y aura plein de surprises évidemment, mais c'est vraiment au stade de réflexion encore, et on commence dès maintenant, effectivement, on s'y prend tôt.
On verra ça l'année prochaine, on va tenter d'être patient. On retrouve donc toute la prog, toutes les infos sur leroc.org. Merci beaucoup pour le temps consacré à cette présentation de la 29e édition du Festival Rock dans tous ses états.
Mais c'est moi, ça me fait plaisir.
Et puis on se voit le dernier week-end de juin.
29 et 30 juin.
Merci beaucoup et à très bientôt.